Chapitre 10 et 11. Les témoins de Dieu. Chapitre 10. Versets 1 à 11. Citation de l'Écriture. Et je vis un autre ange puissant descendant du ciel, revêtu d'une nuée, et l'arc-en-ciel sur sa tête, et son visage comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu, et il avait dans sa main un petit livre ouvert. Et il mit son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre, et il cria à haute voix comme un lion rugit. Et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur propre voix. Et quand les sept tonnerres eurent parlé, j'allai écrire, et j'ouïs une voix venant du ciel disant, « Scelle les choses que les sept tonnerres ont prononcées, et ne les écris pas. » Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, lequel a créé le ciel et les choses qui y sont, et la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé, comme il en a annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves les prophètes. Et la voix que j'avais ouïe du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. » Et je m'en allai vers l'ange, lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et dévore-le, et il remplira ton ventre d'amertume. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Et je pris le petit livre de la main de l'ange, et je le dévorai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et quand je l'eus dévoré, mon ventre fut rempli d'amertume. Et il me fut dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur des peuples et des nations et des langues et beaucoup de rois. » Fin de citation. Avec le chapitre 10, nous arrivons à une pause dans la prophétie concernant les jugements des sept trompettes afin que puissent nous être présentées les voies de Dieu pour maintenir un témoignage de Christ en relation avec la terre pendant la période solennelle de jugement de la sixième trompette ou second malheur. Cette parenthèse se termine par la déclaration du verset 14 du chapitre 11. Le second malheur est passé. Voici. Le troisième malheur vient promptement. Ceci indique sûrement que les événements décrits dans cette partie ont lieu pendant le second malheur et sont immédiatement suivis par le troisième malheur ou jugement de la septième trompette. D'après les détails donnés dans ce passage, nous verrons que les événements consignés ont lieu pendant la période de 3 ans et demi qui précède immédiatement la venue de Christ pour revendiquer son royaume terrestre. Verset 1. Le passage s'ouvre sur la vision d'un ange puissant descendant du ciel. La description qui suit nous permet sûrement de déduire que cet ange puissant représente Christ. Il est revêtu d'une nuée qui, dans l'Écriture, est souvent un signe de la présence divine. L'arc-en-ciel qui a été vu autour du trône, au verset 3 du chapitre 4, est maintenant sur la tête de cet ange et indique que c'est celui par qui l'alliance miséricordieuse de Dieu avec la terre sera réalisée. Son visage, comme le soleil, nous rappelle que dans cette personne sera présentée toute la gloire et l'autorité suprême de Dieu. Ses pieds, comme des colonnes de feu, indiqueraient qu'il emprunte un chemin de saint jugement contre le péché. Verset 2. Dans sa main, il tenait un petit livre ouvert. D'après les versets qui suivent, nous pouvons déduire que le livre ouvert se réfère aux prophéties de l'Ancien Testament qui ont été clairement révélées, contrairement au livre scellé de sept sceaux qui annonce des choses non dévoilées à l'époque de l'Ancien Testament. L'ange mit son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. La mer est souvent utilisée symboliquement dans l'Écriture pour présenter la masse des nations non civilisées, tandis que la terre parle de la partie ordonnée du monde qui a eu la lumière de Dieu, soit par le judaïsme, soit par la chrétienté, et donc la partie du monde auquel la prophétie s'applique spécialement. Nous sommes donc conduits au temps où Christ revendiquera publiquement ses droits sur le monde entier. Versets 3 et 4. La voix forte et les sept tonnerres nous disent que les droits de Christ seront accomplis par des jugements auxquels nul ne peut échapper, mais Jean n'est pas autorisé à révéler les voies des sept tonnerres. Versets 5 à 7. Christ, représenté par l'ange puissant, a déjà affirmé sa prétention sur le monde entier. Il jure maintenant par celui qui vit au siècle des siècles et qui a créé toutes choses, que le temps où il entrera dans son héritage terrestre est proche. Il n'y aura plus de délai. La septième trompette introduira les jugements finaux, mettra fin au mystère de Dieu et apportera les bénédictions du royaume selon la bonne nouvelle annoncée par ses serviteurs les prophètes. Dans ce passage, le mystère de Dieu évoque le fait que, durant de longs siècles, Dieu n'est pas intervenu publiquement dans les affaires des hommes. Leur méchanceté s'est accrue, sans être réfrénée par quelque intervention publique de la part de Dieu. Les hommes ont pu satisfaire leurs convoitises, atteindre leurs ambitions, accroître leur rébellion contre Dieu et persécuter son peuple. Au cours des siècles, les saints ont été suppliciés, bannis de leurs maisons, martyrisés sur les bûchers. Et Dieu, apparemment, n'est pas intervenu. Tout ceci, qu'on a appelé le silence de Dieu, est un grand mystère. Ce n'est pourtant pas inexplicable, car un mystère, dans l'Écriture, n'est pas quelque chose qui ne peut pas s'expliquer, mais une chose qui n'est connue que d'initiés. Pendant le temps du mystère de Dieu, les croyants ont eu le livre ouvert de la prophétie annonçant que le temps de bénédiction viendra quand Dieu interviendra publiquement. Ainsi, la lampe de la prophétie a illuminé les ténèbres au cours des siècles et le croyant est entré dans la pensée de Dieu. Quand le Seigneur Jésus interviendra publiquement, prenant possession des royaumes du monde, le mystère de Dieu sera alors achevé. Le jugement des méchants et les bénédictions du royaume, connues du croyant, seront accomplies et manifestées au monde. Versets 8 à 11. La dernière scène du chapitre 10 est très significative et pleine d'instructions. Il est dit à Jean de prendre le petit livre ouvert et de le manger, et ainsi qu'il le trouverait amer dans son ventre, mais doux comme du miel dans sa bouche. Cela ne signifie-t-il pas que la vérité de tout ce que Dieu amènera, le dévoilement des gloires à venir, est en effet douce au goût, mais implique la mise de côté de la chair et le jugement total de tout ce que la chair convoite? Nous devons découvrir, comme croyants, que la chair est toujours en nous, et par conséquent, aussi douce que soit la vérité au goût, elle implique des exercices amers en découvrant le vrai caractère de nos propres cœurs. Il faut non seulement que nous jugions le monde qui nous entoure, mais que nous jugions aussi la chair en nous. Car si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Quand nous avons jugé la chair, le Seigneur peut nous utiliser comme témoin pour d'autres, comme Jean, à qui il est dit, après qu'il a passé par ses exercices, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur des peuples et des nations et des langues et beaucoup de rois. » Ésaïe, en son temps, a dû apprendre l'amertume de ses propres visions. En Ésaïe 6, il voit la terre entière remplie de la gloire de l'Éternel, sûrement un doux avant-goût de la bénédiction et de la gloire à venir. Mais il dit aussitôt, « Malheur à moi, car je suis perdu. » Car moi, je suis un homme aux lèvres impures. » C'est l'amer exercice que produit la parole en lui découvrant le caractère de son propre cœur. Mais quand il l'a reconnu, il voit aussitôt qu'un charbon pris de l'autel y pourvoit. Ainsi, lorsque nous découvrons et reconnaissons ce que nous sommes, nous constatons que tout y a été pourvu par celui qui est mort pour nous. Ayant été purifié par le sacrifice, Ésaïe est celui même que l'Éternel peut envoyer aux autres avec un message. Ésaïe 6, versets 3 à 10.